Chers amis de Radio Galère, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir tous les mardis, de 18h à 19h, dans l'agora de l'Université Populaire de Marseille Métropole, sur la bande FM 88.4, sur le canal 8C de la radio numérique terrestre et en diffusion Internet. L'agora vous propose des régalades, des pépites, des projets, des initiatives de la recherche, de la créativité, de la cité. Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir Marion Olaran-Lagan. Marion, bonjour.
Bonjour et merci beaucoup de me recevoir.
Marion, vous avez écrit votre premier essai dont le titre est Patriarthèque, publié par les éditions Hors d'atteinte, qui seront en librairie le 17 mai 2024. Marion Olaran, vous avez été professeur agrégé en civilisation américaine, non, vous êtes, pardon, à l'Université de Bretagne-Sud. Vous avez dirigé les équipes qui ont conçu les personnalités françaises, italiennes et espagnoles d'Alexa, l'assistant personnel d'Amazon. C'est quoi l'assistant personnel intelligent d'Amazon, Alexa ?
Alors, en 2018, Amazon a donc sorti, a lancé Alexa. Alexa, c'est la voix, en fait, qui, dans des outils, comme Echo, qui est une petite enceinte, par exemple, va vous répondre quand vous lui demanderez quelle heure est-il, quel temps fait-il demain, raconte-moi une blague, et ainsi de suite. Elle avait été lancée, bien sûr, au préalable aux États-Unis, hein, plusieurs années auparavant. Et en parallèle, OK Google avait aussi sorti son propre assistant personnel, qui s'appelle donc OK Google, et qui est un petit peu l'équivalent aussi de Siri. Sur Apple, en fait. Tout à fait. Donc, c'est ça. L'assistant personnel d'Amazon, c'est la version Amazon de ces différents assistants, en fait, des variations.
Et quel a été votre rôle dans la direction de ces équipes? Parce
Alors,
que c'est quand même surprenant pour une universitaire plutôt littéraire.
Oui, mais je n'ai pas fait que ça. Je suis littéraire au début, à la fin. En fait, je travaillais chez Amazon à l'époque, avant bien sûr que le projet commence. Moi, je travaillais beaucoup sur la partie, on va dire, marketing digital, mais aussi vente. J'ai fait plusieurs postes. Et en fait, j'ai fait une école de commerce. J'avais aussi un passé en lettres modernes. Et lorsque Amazon s'est préparé à lancer Alexa donc en France, en Italie, en Espagne, donc ils cherchaient une personne qui pourrait donc diriger une équipe qui s'occupe de créer ce qu'on appelle la personnalité. Alors la personnalité, c'est un grand terme vu comme ça, et on se demande tout de suite qu'est-ce que ça veut dire. En fait, on peut séparer l'assistant personnel, on va dire, en deux parties. Il y a une partie pure fonctionnalité, c'est-à-dire quand on lui demande quelle heure est-il, quel temps fait-il demain, met la musique, ainsi de suite. Voilà, une commande, une réponse. Et il y a la partie qui correspond à des questions, à des interactions qui ne sont pas purement de la demande de service, de la demande de quelle heure est-il, ainsi de suite. Et c'est sur ces parties-là que l'on considère qu'existe ce qui est la personnalité. Et cette personnalité, elle est forcément culturelle. Parce qu'on ne répond pas de la même manière selon qu'on soit français, italien, espagnol, anglais, allemand, et ainsi de suite. Par exemple, la question qui s'est posée en France, c'était est-ce que Alexa devait tutoyer ou vouvoyer les clients, en fait, ceux qui, quand elle est... Et on a décidé qu'elle vouvoierait, puisqu'en France, on partait du principe que le vouvoiement, en fait, est utilisé quand on a une relation qui est une relation qui n'est pas personnelle. En règle générale, bien sûr, on va vouvoyer un serveur dans un café. Normalement, on va vouvoyer un professeur et un professeur va vouvoyer un étudiant. Donc, on a fait la décision du vous. Ça n'a pas été le cas en Espagne, parce qu'en Espagne, le vous est beaucoup plus fort et beaucoup plus formel. Et là, ça aurait été beaucoup trop fort. On aurait eu l'impression de s'adresser au Premier ministre. J'exagère, hein. Mais c'était un peu les retours qu'on avait. Et donc, il y a à la fois des questions sur la forme, à savoir comment elle s'exprime, qu'est-ce qu'elle dit quand on lui pose une question, quand on lui demande une blague, quel type de blague elle va faire, mais aussi, enfin, quel type de blague, comment est-ce qu'elle parle en fait, donc sa voix. Parce que la voix d'Alexa est différente selon les pays. Elle a... et pour ceux qui connaissent un peu, s'ils ont entendu la voix d'OK Google, entendu la voix d'Alexa, ce ne sont pas les mêmes en France. Vraiment, il y a, OK Google, c'est une voix beaucoup plus jeune, à l'oreille en tout cas. Et Alexa, elle a une voix beaucoup plus... mature, dirons-nous. Relativement neutre, mais qui n'est... mais qui n'est... qui est une voix plus ronde, je trouve. Après, je ne veux pas dire le contraire parce que je fais partie des personnes qui ont dit oui, c'est celle-là qu'il faut choisir. Donc voilà, il y a vraiment tout ça à prendre en compte parce que la personnalité, finalement, c'est aussi ce qui va donner envie potentiellement d'interagir plus avec l'outil. Parce que si quand on lui pose une question amusante, elle répond et que la réponse fait réagir, que se dit ah oui, elle sonne française ou elle sonne italienne, elle sonne espagnole, on va le client, les études montres, va être encouragé à interagir plus souvent. Et d'un point de vue très commercial, plus d'interactions. C'est potentiellement plus d'interactions commerciales. Et donc, c'est plus de rentabilité à long terme.
Et donc c'est une application qui est vraiment très personnalisée, j'allais dire individualisée.
Alors, individualisé, pas à l'époque, même si c'est le but, hein, je pense, hein, parce que l'idée, c'est d'avoir un assistant personnel qu'il soit vraiment, dont on pourrait choisir tout, mais la voix aussi d'ailleurs. Et ce serait, je pense que enfin, c'est ce sur quoi on travaillait déjà, parce que la voix, quand elle est sortie, avait un seul choix, c'était une voix sonnée féminine. Mais bien sûr, il y a eu des questions par rapport à ça, parce que pourquoi est-ce que si c'est une assistante, la voix doit être féminine? Parce que tout de suite, il y a des questions, bien sûr, de sexisme qui sont latentes. Et OK Google, un petit peu après, avait proposé différentes voix, dont des voix masculines. Et c'est le cas d'Amazon aussi, aux États-Unis, c'était déjà le cas. Donc on peut normalement choisir, et idéalement, enfin idéalement, c'était en tout cas un des projets possibles, celui d'avoir une voix vraiment individualisée, personnalisée. On pourrait imaginer, en fait, c'est une proposition qui n'est pas du tout en l'air, mais qui peut sembler un peu étrange, mais imaginons que vous vouliez qu'Alexa vous parle comme votre grand-mère qui est décédée. Et vous avez des enregistrements de votre grand-mère et vous pourriez faire écouter ces enregistrements et pour qu'elle prenne les intonations et qu'elle arrive à s'exprimer ainsi. Alors ça, c'est pas tout de suite, ça demande beaucoup de travail, mais ce serait l'objectif. Après, est-ce qu'on a envie que sa grand-mère soit son assistant personnel, c'est une autre question, mais c'est les possibilités.
D'accord. C'est quoi la tech? Dans la quatrième de votre couverture, vous écrivez, si dans la tech, peut-être encore plus qu'ailleurs, on ne cesse de glorifier des hommes seuls présentés comme des génies, nous devons ces inventions, comme tous les progrès scientifiques, à des collectifs dont la plupart étaient mixtes. Réparant cette injustice, ce livre montre combien la tech amplifie, alimente et légitime le système patriarcal. Alors, je reviens, c'est quoi la tech?
Alors, la tech, c'est un anglicisme déjà hein, qui nous vient des États-Unis. Ça vient de technologie, hein, tout simplement. La technologie, c'est les applications concrètes d'inventions scientifiques. L'ordinateur, c'est un exemple de la tech. Le smartphone, c'est un exemple de la tech. Mais la tech, c'est devenu vraiment, l'acception du terme, hein, c'est devenu vraiment lié à tout ce qui est autour des nouvelles technologies, en fait. Quand on parle de la tech, on pense en réalité de nouvelles technologies. Donc tout ce qui est autour de aussi Internet, intelligence artificielle, les infrastructures qui permettent de donner lieu à tout ça. Donc dans la tech, il y a aussi deux angles. Un angle qu'on appellera le hardware, qui est tout ce qui est matériel, tangible. Donc voilà, c'est les outils de la tech. J'ai déjà parlé d'ordinateur, mais tablettes et des infrastructures qui permettent qui nous permettent d'avoir Internet, les data centers qui nous permettent de streamer des contenus parce que c'est là que sont stockés ces contenus, qui nous permettent aussi d'aller sur les réseaux sociaux, qui nous permettent d'avoir un Google Drive ou autre pour ranger des documents sur un cloud. Et l'intangible, qui est la partie, alors dans les années 80, 70, on parlait du logiciel, mais maintenant c'est encore plus large que ça, c'est tout ce qu'on ne peut pas toucher du doigt, très, très, très simplement, mais qui en fait s'articule sur le tangible. Donc ça part de Internet, le fait de là, quand on va sur Internet, quand on navigue sur Internet, c'est les réseaux sociaux, c'est le Wi-Fi, le fait qu'on puisse utiliser du Wi-Fi. C'est toutes les applications, les plateformes Airbnb, Uber, etc. Il y a du tangible, hein, il y a du vrai tangible. Airbnb, derrière, il y a une infrastructure. Mais l'échange, le pair à pair, ça, c'est de l'intangible. Donc, c'est vraiment ce mélange, cette rencontre entre le tangible et l'intangible fait que la tech, elle est omniprésente. Enfin. On se promène avec son téléphone dans la rue, on est connecté à Internet. C'est partout, quoi. On va dans un musée, on scanne un QR code, on revient sur Internet. On est maintenant de plus en plus. Enfin, maintenant, on est dans des villes avec des caméras de plus en plus qui s'installent, avec de la reconnaissance faciale. Donc, on est entouré, nos visages, nos expressions faciales sont analysées, stockées pour un usage plus ou moins licite, hein. En tout cas un usage sur lequel on n'a pas toujours beaucoup de transparence. Donc finalement la tech, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est cette omniprésence et le fait que on a, alors je crois que c'était en 2022 ou 2023, on est 64% à être sur Internet d'humain, ce qui est quand même c'est
Énorme.
beaucoup. On est à peu près à ça. Donc, oui, c'est partout, en fait. La vague est passée. On n'est pas à la moitié du monde est dessus, la moitié du monde ne l'est pas. Et on sait que dans les pays, notamment africains, Internet, avoir la 4G, la 5G, ainsi de suite, c'est vraiment une manière, tout se fait par téléphone. Donc, c'est aussi une grande force, hein, pour pouvoir faire du commerce, pour pouvoir se développer. Mais en parallèle, oui, d'accord, en Afrique, on va avoir tous ces téléphones et tout le monde connecté à Internet, mais c'est aussi là où on a les mines de cobalt où des enfants travaillent pour nous permettre d'avoir le dernier iPhone, le dernier Android et autres, hein, parce que toutes les marques sont concernées par ça.
Bien sûr. Vous poursuivez en disant quand les ordinateurs étaient des femmes.
Ah oui, alors quand les ordinateurs étaient des femmes, c'est intéressant parce que j'avais envie d'avoir une vision un peu historique pour remettre dans le contexte, parce que moi j'aime l'histoire, j'aime comprendre comment les choses se sont passées, même si c'est toujours a posteriori qu'on réexplique, hein. Et en fait, j'avais découvert l'histoire des calculatrices de Lalande, qui est donc un grand astronome français à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, qui a vraiment cartographié, a commencé à cartographier le ciel. Et il travaillait main dans la main avec des calculatrices avant l'heure. Et en fait, calculatrice, c'est la traduction du terme computer en anglais. On les appelait comme ça en anglais, en anglais, parce que pourquoi? Parce que je fais un saut, puisque c'est calculatrice de Lalande, dans le l'essai, j'en parle pour montrer comment, en fait, à l'époque, on travaillait, il n'y avait pas une séparation de la science dans des laboratoires et de la maison. Les scientifiques travaillaient en partie chez eux, ce qui facilitait l'accès, à la science, des femmes. Bien sûr, dans certains milieux, je ne dis pas que c'était pour toutes, hein, mais à partir du moment où on a séparé les laboratoires scientifiques, il fallait faire des études, il fallait ci et ça. C'est tout de suite beaucoup plus compliqué d'avoir des femmes qui ont accès. Et on voit ça avec d'autres calculatrices, celle de l'Observatoire de Harvard, donc ça à la fin du 19e siècle. Donc c'est Pickering qui avait tout un. qu'on appelait à l'époque un harem, ce qui est quand même horrible la manière dont c'était formulé, le harem de Pickering, donc des femmes qui, en fait, il les avait recrutées parce qu'il était mécontent du sens du détail de ses assistants. Bon, ce qui nourrit aussi une forme d'essentialisme sur les femmes ont plus le sens du détail. Mais en tout cas, celle-ci l'avait, puisque cartographier les étoiles, ça demande vraiment d'avoir un sens du détail très très fort. Et lui, les femmes avec qui il travaillait étaient principalement quand même issues de classes privilégiées. Elles avaient fait des études. C'était des femmes blanches. Mais elles, pour des raisons tout à fait compréhensibles, ne souhaitaient pas se marier, ne souhaitaient pas avoir d'enfants. Et elles souhaitaient continuer en fait à mener leur activité de scientifique. Et donc, ces femmes-là s'appelaient des calculatrices parce que leur travail, c'était vraiment d'être à la main avec leur petit stylo, d'autant plus qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur tel qu'on l'entend maintenant. Et puis, elles observaient les étoiles et puis elles notaient comment les cartographier. Elles mettaient en place des systèmes. Annie Jump Cannon, son système est encore en utilisation à l'heure actuelle. Elle a créé un système de cartographie des étoiles. Et donc, cette idée de femmes qui calculaient, mais qui étaient finalement peu visibilisées, ou qui ont été oubliées, en fait, elles ont existé. On a parlé d'elles, on a parlé un peu d'elles dans les journaux, etc. Mais c'était toujours sous, c'est le harem de Pickering, elles travaillent pour Pickering, elles travaillent avec Pickering. Et on voit ça de manière encore plus intense avec, alors, deux cas particuliers, c'est celui, bien sûr, de la NASA. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc qui s'appelait la NACA à l'époque, mais c'était la même organisation, qui avait embauché, en fait, qui avait un problème, bien sûr, de recrutement, parce que les hommes étaient partis à la
Les
guerre.
hommes étaient à la guerre, oui.
Voilà, étaient partis la majorité à la guerre à partir de 41, après Pearl Harbor. Et donc, c'était parti de l'affiche Wanted, c'est devenu Women Wanted. Donc, les femmes, maintenant on veut des femmes, maintenant qu'on n'a plus d'hommes. Et en fait, ça a ouvert la porte à de nombreuses scientifiques afro-américaines en pleine ségrégation. On était encore en plein dans la ségrégation, donc c'est d'autant plus. On voit bien que quand il y a des besoins économiques, tout d'un coup, on fait des écarts par rapport aux lois. Et donc, on a plusieurs mathématiciennes qui n'avaient pas le grade de mathématicienne, hein, alors qu'elles étaient diplômées vraiment de mathématiques, de physique, enfin des femmes brillantes. Elles étaient calculatrices, donc assistantes techniques, en fait, c'était le terme. Et pour devenir mathématicienne, il fallait vraiment. Certaines ont réussi à l'obtenir, mais grâce à la solidarité. Et on pense à des femmes comme Dorothy Vaughan, qui, quand elle a commencé à travailler pour la NACA, enfin NASA, avait 32 ans, 4 enfants, enfin, elle est allée s'installer là-bas. Et elle, quand Katherine Johnson est arrivée, quelques années après elle, elle l'a aidée, parce qu'elle s'est battue pour qu'elle ait son titre de mathématicienne tout de suite. Parce que c'était important économiquement aussi.
Bien sûr,
On était beaucoup
c'était
mieux
pas le même
payés.
salaire.
Mais complètement. Et puis c'était injuste, parce que le travail qui était fait était un travail à l'égal de celui d'homme, sauf qu'eux avaient le titre de mathématicien. Et ces femmes-là étaient encore appelées calculatrices, mais en fait, c'est à ce moment-là qu'elles deviennent, en fait, il y a quelque chose qui se passe, elles deviennent des programmeuses. Donc oui, quand je dis que l'ordinateur était une femme, c'est pour montrer qu'en fait, tous ces calculs, et un ordinateur, c'est une grande machine à calculer, hein, étaient faits pendant très longtemps par ce qu'on appelle des petites mains, et le terme de petit est bien sûr, il est négatif ici, principalement, alors il y avait beaucoup de femmes. Dans le cas de la course aux étoiles et la course à l'armement avant ça, des femmes noires, donc à la NACA slash NASA. Et ces femmes-là, alors, les femmes Dorothy Vaughan, Mary Jackson, Katherine Johnson, elles ont été mises en lumière par un livre et un film qui est sorti en 2016. Les deux sont sortis en 2016, qui s'appelle Les figures de l'ombre. En français, donc le livre écrit par Margot Lee-Shetterly, qui est passionnant, et le film qui est un peu plus. C'est bien parce que ça permet de donner de la visibilité, et ça c'est toujours important, mais qui est un peu plus bon sentiment et qui fait plaisir, je pense, aux personnes blanches en se disant quand même, regardez, c'est bien, il y avait quelques blancs qui les ont aidés, ce qui n'était pas le cas. Hein.
C'est dans ce film où on voit les hommes qui posent devant l'appareil photo, alors qu'ils n'ont pratiquement pas du tout travaillé, parfois des employés, des ouvriers qui sont sur la photo, alors que ce sont des femmes qui ont réalisé la programmation.
Oui, il y a beaucoup ça. Et ça, notamment, c'est ce qui s'est passé avec ce qu'on appelle les ENIAC Girls. Donc, ENIAC, c'est un des premiers ordinateurs, donc ordinateurs géants qui prennent une pièce, qui pèsent une tonne. Il faut un système de ventilation extrême pour qu'ils puissent marcher bien au moindre changement de température, ils se cassent. Et en fait, ENIAC, ça avait été mis en place pour calculer les tirs balistiques. Encore une fois, voilà, c'est dans les années, à la fin des années 40, enfin, je veux dire à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et il y avait six femmes, six programmeuses à l'époque. Donc, elles avaient ce titre-là de programmeuse, plus Adèle Goldstein, qui était avec son époux Herman Goldstein, qui s'occupait de gérer cette équipe-là. Et ces six femmes-là, en fait, quand le New York Times est venu faire son article, regardez, c'est génial, le premier ordinateur, les États-Unis sont fabuleux. En fait, on les prenait pour ce qu'on appelle des refrigerator ladies, c'est-à-dire les filles qui posent devant des réfrigérateurs pour attirer le chaland, en fait, faire de la pub.
Bien sûr.
Et sur les photos, effectivement, on les voit peu. On les voit, il y a une photo notamment, on voit des ingénieurs devant. Et en fait, au fond à droite, je crois, de mémoire, on voit vaguement, on se dit, ah, c'est une femme, je crois que c'est Betty Jennings. Mais voilà, il y avait vraiment on pouvait même pas imaginer qu'elle soit là, le grand public en tout cas. Et les journalistes faisaient pas un effort de travail sur ça, visiblement, puisque ils les mentionnaient pas. Et c'est d'autant plus choquant, je pense, pour Adèle Goldstein que donc elle travaillait avec son mari, que tous les deux publiaient ensemble. Donc son nom n'était pas effacé, contrairement à des programmeuses qu'on ne parlait pas forcément d'elles, c'est vrai. Mais même si son nom n'était pas effacé, on ne parle pas d'elle. Les journalistes l'oublient. Donc
Ah, vous
c'est assez
connaissez
choquant.
l'adage, tant que les historiens seront des hommes, tant que les hommes raconteront. C'est tant qu'il n'y aura pas de lapin pour raconter l'histoire, ce sont les chasseurs qui la raconteront.
Oui, exactement. Oui, bah
Donc
on
c'est la
voit
même
ça.
chose
Hein.
pour les. Mais on l'observe encore aujourd'hui dans les livres d'histoire, et heureusement, il y a de plus en plus d'historiennes et d'anthropologues qui racontent. Et j'invitais il n'y a pas très longtemps une auteure qui a écrit un livre dont le titre est Les femmes les hommes préhistoriques étaient aussi des femmes.
Oui. Ben oui,
Et
parce que
elle explique dans ce livre comment les femmes étaient importantes dans la vie à cette époque parce qu'elles soignaient, elles nourrissaient et elles étaient au moins aussi importante, sinon plus importante que les hommes qui avaient pour mission de chasser et de cueillir.
ben,
Elle faisait tout le reste.
en fait, c'est vraiment ça me semble, enfin, ça paraît logique qu'il n'y ait pas un type de personne qui ait fait tout. Enfin, on voit très bien, les civilisations, c'est la multiplicité, c'est la diversité, c'est chacun apporte et fait ce qu'il peut, comme il le peut. Et en fait, ben, c'est exactement ça. C'est voilà, tant que l'histoire est écrite, tant qu'il n'y aura pas d'histoire écrite par les lapins, ben, on ne parlera que des chasseurs.
C'est ça.
Et on voit la même chose ici, que ce soit pour toutes les minorités hein, sur la tech. Je parle de femmes, je parle de femmes noires, je parle de personnes, je parle de validisme. J'ai essayé de voir le plus large possible, en fait, justement pour montrer que ce qu'on utilise à l'heure actuelle, ce qui fait partie de nos vies, c'est aussi le produit de travail de personnes qui venaient d'horizons très différents. C'est ça qui en fait la richesse. Et le problème, c'est quand, un, c'est invisibilisé, mais deux aussi, qu'on nous fait croire que la tech, c'est neutre, alors qu'on voit très bien que les outils, notamment de l'intelligence artificielle, sont quand même beaucoup conçus par des hommes privilégiés, blancs, et forcément, on a un biais, on a tous un biais en fait.
Vous écrivez également, les femmes scientifiques sont victimes de ce que la philosophe Miranda Fricker appelle l'injustice systémique.
Injustice épistémique, je pense.
Oui.
Oui, bah oui, Miranda Fricker, bah c'est elle qui a, utilisé ce terme qui est passionnant, c'est-à-dire que ces femmes scientifiques, on ne les voit pas, il y a un biais en fait. Injustice épistémique, épistémique ici, c'est la science, hein, la découverte de la science, la compréhension de la science. Comme on nous éduque à penser que le scientifique est forcément masculin, on a du mal à. Quand on voit une femme sur une photo, avec un grand ordinateur où il y a des hommes, on se dit, ah ben, elle est forcément là pour faire le ménage. C'est aussi ça l'injustice épistémique. Je grossis le trait, bien sûr. Mais on se dit, ben,
Pas tant que ça.
voilà. Mais, et a fortiori, et imaginez a fortiori une femme noire, dans le cas de Katherine Johnson. Et c'est d'autant plus c'est intéressant parce que donc elle a participé à au premier vol orbital des États-Unis. Avec donc John Glenn, qui était l'astronaute. John Glenn qui avait demandé à ce que ce soit elle qui vérifie tous les calculs de l'ordinateur, puisqu'il avait plus confiance en elle, en un humain, et elle était brillante, hein, qu'en l'ordinateur. Et lui, quelques années après, qui lors d'une audition devant le Congrès, a déclaré que les femmes ne devaient pas être impliquées dans la course aux étoiles, parce que leur rôle, c'était d'être à la maison. Comme s'il ne pouvait même pas la voir, elle, comme une femme. Alors, a fortiori, potentiellement, parce qu'elle était noire aussi, on sait que y a ce croisement des oppressions qui fait que on va ne pas identifier la femme noire comme une femme, mais c'est ridicule de voir à quel point.
C'est la double exclusion, quoi.
Complètement, complètement.
Le deuxième paragraphe de votre livre est intitulé Espionnage et ostracisme, donc après la Deuxième Guerre mondiale. Et vous parlez également de petites mains et grand cerveau, donc on vient d'en parler un tout petit peu, mais vous faites largement référence à Alan Turing, qui manifestement vous a marqué celui-ci.
Oui, ah oui, j'ai bah
Celui-ci, vous l'adorez, je crois.
ouais, enfin je l'adore, je trouve que bah, déjà il a c'est quelqu'un de brillant tout simplement hein. C'est quelqu'un de brillant, il est tellement brillant qu'il n'a pas oublié de mentionner Ada Lovelace dans l'un de ses essais et rien que pour ça. Je trouve que c'est un personnage intéressant parce il a vraiment vu l'intérêt de ce qu'elle avait écrit. Notamment, elle avait anticipé la programmation, elle avait anticipé en fait la science informatique. C'est une visionnaire. Et Alan Turing, c'est un petit peu, c'est celui que tout le monde connaît parce que il y a le test de Turing, il y a eu le film avec Benedict Cumberbatch, Imitation Game. Qui se focalise justement sur le travail de cryptanalyse qu'a fait Alan Turing pendant la Deuxième Guerre mondiale avec Enigma pour analyser bien sûr les transcrire transcoder les messages des Allemands pour essayer de gagner la guerre. Et c'est alors c'est quelqu'un qui vient d'un milieu très privilégié. Hein. Son père était dans l'administration coloniale. Voilà hein, l'Angleterre à l'époque. Mais c'est aussi donc il est homosexuel Alan Turing. Il l'a caché sans le cacher, c'est resté un crime à l'époque. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'était un crime. C'était un crime, donc bien sûr, plus on était dans des sphères élevées, plus c'était facile de l'être, bien sûr, mais ça restait quand même compliqué. Donc c'est quelqu'un qui, on peut l'imaginer, a vécu en partie une double vie, ce qui n'est jamais facile. Et ce que je trouve. Il est mort très jeune, hein. Il est mort à 42 ans. On ne sait pas exactement si c'est un suicide ou une maladresse. Ça dépend de ses biographes, ça qui est assez intéressant, puisqu'il a mangé une pomme sur laquelle il y avait du. Enfin, a priori, il aurait mangé une pomme sur laquelle il y avait du cyanure. Bon, pour mettre du cyanure sur une pomme sans s'en rendre compte, c'est quand même assez. Moi, ça me. Enfin, je ne suis pas experte d'Alan Turing, mais moi, ça me semble quand même assez. Assez peu probable et c'est quelqu'un qui donc a été accusé parce que un de ses compagnons qui avait cambriolé chez lui donc l'a accusé d'être homosexuel donc il a subi une castration chimique pendant plus d'un an et on lui a retiré notamment son accréditation parce qu'il travaillait encore en cryptanalyse avec le gouvernement anglais. Donc, d'un point de vue scientifique, c'était vraiment une vraie claque. Et puis surtout, tellement injuste. Quelqu'un qui avait travaillé au point où il avait travaillé pour l'Angleterre. On sait que le travail qu'a fourni tous les cryptanalystes, et a fortiori Alan Turing, les historiens estiment que ça a réduit la guerre de 2 années, voire plus.
Ah oui, c'est énorme.
Donc, il y a vraiment une forme de aucune reconnaissance par rapport à ça. Et ce qui est intéressant avec Alan Turing, c'est donc tout le travail qu'il a fait il a anticipé l'ordinateur, le smartphone, tout ça, la machine de Turing. Hein, c'est ça qu'il avait, c'est sur quoi il a travaillé notamment pendant sa thèse. Et il a anticipé aussi l'intelligence artificielle, puisqu'il a posé la question de quand est-ce qu'on ne fait pas la différence entre un ordinateur et un humain. D'où cette idée du le jeu de l'imitation, the imitation game. C'est ça qu'on appelle le test de Turing. Mais ça a beaucoup été résumé, à savoir, bon, si tu parles à un ordinateur et tu ne te rends pas compte que c'est un ordinateur, alors ça veut dire que le test de Turing est fait, enfin, est résolu, et que donc oui, on est arrivé à ce qu'il y a l'intelligence artificielle. Ce n'est pas exactement ce qu'il disait, en fait. Ce qu'il disait, c'était juste, ça parlait de la relation. Lui, ce qui l'intéressait, c'était qu'est-ce qui dans la relation à quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre fait qu'on reconnaît l'humanité. Est-ce que c'est parce que quand on dit bonjour, on nous répond bonjour? Et ça, c'est ça, moi je trouve ça, parce que c'était comme tout scientifique, il avait un côté philosophe. Cette question-là qui est intéressante, qu'il a posée, c'est-à-dire que quelle la relation avons-nous aussi aux objets que nous créons, à l'intelligence artificielle que nous créons? Et on peut se poser la question, bah, je reviens à Alexa rapidement, mais il y a cette idée-là, quand on parle à un objet, parce que c'est bien ça, hein,
Bien sûr.
et qu'on lui dit bonjour, qu'est-ce qu'on crée comme relation, qu'est-ce qu'on crée comme monde, est-ce que pour autant ça veut dire que même si elle nous répond très bien et qu'elle nous fait rire, est-ce qu'on va la confondre avec un humain? Je ne pense pas. Donc oui, c'est vraiment un. Il est très intéressant, très complexe comme personnage.
Aujourd'hui, lorsqu'on parle à son téléphone, en fait, on utilise une prothèse et on.
Complètement. D'autant plus que le téléphone portable, maintenant, c'est vraiment, il est dans la main.
C'est ça?
C'est, quand vous dites
Pour
prothèse, c'est vraiment.
l'instant, c'est pas sûr qu'il reste dans la main encore longtemps.
Alors oui, c'est Yann LePin qui travaille pour Meta, d'ailleurs qui a reçu le prix Turing, hein, avec un de ses collègues, qui il n'y a pas longtemps, lors d'une conférence, a expliqué que l'objectif notamment de Meta, c'était que bientôt on porterait des lunettes
C'est ça.
et qu'en fait on aura un bracelet, et que donc avec les lunettes, avec donc de la reconnaissance rétinienne, on choisirait les applications ou ce qu'on veut faire, et que le bracelet nous permettrait de confirmer ou pas ci ou ça. Il a dit oui, c'est dans 15 ans, je crois que c'était son. Donc après, c'est toujours facile de faire des prédictions, on verra hein, dans 15 ans. Est-ce que les gens voudront porter des lunettes? C'est une vraie question. Quand on voit le casque que Apple a lancé, c'est en début d'année ou en fin d'année dernière, qui est quand même, on dirait, un casque de ski. Je n'ai pas les chiffres des ventes, mais ça m'intéresse parce que je veux savoir dans quelle mesure les gens l'utilisent vraiment dans la rue. Parce que c'est une chose d'utiliser un outil chez soi, comme une console de jeux vidéo, par exemple. Mais dans la rue, là, ça devient effectivement une prothèse. Je ne sais pas si on en est encore là. Et bien sûr, l'étape d'après, c'est Elon Musk avec Neuralink, qui veut nous mettre des micropuces dans le cerveau. Le problème de la micropuce dans le cerveau, c'est qu'on ne peut pas l'enlever. Enfin, pas soi-même.
C'est ça.
Il vaut mieux pas.
Ouais. Dans les années 85, je travaillais avec un consortium qui rassemblait Fiat, Citroën, Peugeot, Volkswagen. Et déjà à cette époque-là, des voitures autonomes circulaient sur le site. Et on voit juste apparaître maintenant des voitures pour appeler autonomes et grand public. Mais qui sont pas encore, enfin, pour lesquels on se pose encore plein de questions sur la responsabilité juridique du constructeur, du conducteur, enfin du passager ou du programmateur, qu'on en est là. Mais c'est même si ça va relativement vite, enfin toutes ces découvertes sont tout à fait récentes, quoi.
Oui, ça va à la fois. C'est étrange parce que c'est un temps qui se dilate, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, les voitures autonomes, ça ne date pas d'hier, en fait.
Ben non.
Ça fait 40 ans qu'on en parle,
C'est
même
ça.
avant.
Mais vu de mes yeux vus,
Oui.
circuler sur le site, quoi.
Oui, c'est-à-dire que pas seulement qu'on en parle, mais qu'elles existent
C'est ça.
simplement. Et même maintenant, en réalité, la voiture autonome, on n'y est pas encore, hein, parce que elle continue à écraser les gens, ce qui est problématique. Et effectivement, la responsabilité juridique.
Bah, pas beaucoup, il y a quand même peu d'accidents. Et en fait, il semblerait que un accident se produit lorsque le passager essaie de prendre la main sur le pilotage automatique.
Alors, il y a ça effectivement, mais par exemple, dans les
Mais
années
ça n'empêche.
2010, il y a un problème de reconnaissance. En fait, Hélène Hertzberg, qui était une piétonne qui en fait poussait son vélo, donc elle avait le vélo à côté d'elle, hein, elle s'est fait écraser par un Uber autonome parce qu'il l'a reconnu comme un vélo et que le choix était d'accélérer, etc. Elle s'est dit, bon, renverser un vélo, ça va. Ce qui est aussi un autre problème. Et ça, en fait, c'est une question d'algorithme, comment l'algorithme a été écrit.
C'est ça.
C'est tout. Et le problème, c'est comme l'algorithme est écrit par des humains font des erreurs et c'est, voilà, l'erreur est humaine. Les humains ont du mal, en fait, avec le côté vélo humain. On peut imaginer ce que ça deviendrait avec un fauteuil roulant. Parce qu'un fauteuil roulant, ça a des roues. Est-ce que c'est un véhicule? Est-ce qu'on va l'identifier comme un véhicule? L'algorithme identifie basé sur des caractéristiques, il analyse, hein. Donc ces questions-là font que les véhicules autonomes, il va y en avoir, mais comme vous le disiez, il y a une vraie question sur la responsabilité. S'il y a un accident,
C'est ça.
qui paie les pots cassés? Sans parler d'accident mortel, mais qui paie les pots cassés de la voiture? Simplement, est-ce que c'est le passager est-ce que c'est le conducteur? On va considérer qu'il y a un problème? La question se pose. Et encore une fois, on en voit dans des lieux très particuliers. On en voit dans la Silicon Valley. Enfin, c'est quand même pas répandu, en fait, encore. Voilà, donc c'est toujours la même chose. Ça, c'est pas le. Enfin, les voitures autonomes, c'est pas. Il me semble pas que ce soit le grand danger de demain. Tant mieux si on a des voitures autonomes qui conduisent mieux que les conducteurs. Si ça peut marcher, pourquoi pas.
Et puis si on les
Mais.
remplit davantage que les voitures qu'on utilise aujourd'hui.
Puis on trouve des voitures électriques, on trouve un moyen de polluer moins aussi, tant mieux aussi. Enfin, si ça avance les choses d'un point de vue écologique, d'un point de vue confort, accessibilité aussi, moi je ne vois pas le problème. Hein. L'essai n'est pas du tout contre la tech. Moi, je suis pas une tech addict, mais je vis dans la tech. On vit tous dedans, je vis beaucoup dedans. Et je trouve ça très intéressant, mais c'est intéressant de voir quelles sont ses limites en fait, et de comprendre quand est-ce qu'on est utilisé par elle, au lieu de l'utiliser, ce qui devrait être plutôt le cas.
Lorsqu'on publie un message sur Facebook ou une vidéo sur YouTube, bah, toutes les données sont utilisées. En fait, c'est du travail gratuit.
Complètement. Ah oui, complètement. Ça, c'est du travail gratuit, c'est un gros problème. Moi, je trouve ça, je trouve. C'est Jaron Lanier qui est un chercheur chez Microsoft, enfin qui est un des pères de la réalité virtuelle, qui est maintenant chercheur chez Microsoft, qui est une personnalité très originale, un musicien aussi, qui a écrit tout un livre sur notamment le fait de comment quitter les réseaux sociaux, parce qu'il parle du travail gratuit, du fait que bien sûr nos données, tout ce qu'on fait, toutes nos actions, c'est ce qu'on appelle le surplus de comportement, est utilisé en fait pour c'est analyser, c'est stocker et pour ensuite nous cibler mieux pour qu'on produise encore plus de contenu par nos comportements et ainsi de suite. C'est un cercle vertueux pour les réseaux sociaux, pas forcément vertueux pour les usagers et usagères, sachant que bien sûr toutes ces données-là, elles sont utilisées pour nous cibler pour de la pub. Et
Bien
la
sûr.
pub, c'est entre guillemets le c'est pas le pire. Ce qui est le pire, c'est quand c'est utilisé pour modifier nos comportements, pour nous faire binge-watcher, pour vouloir absolument qu'on regarde le prochain reel si on est sur Instagram ou la prochaine vidéo sur TikTok. Et c'est ce qui est fait, c'est de créer des contenus, de créer une manière de nous les présenter pour qu'on reste le plus longtemps possible sur ces applications-là. et qu'on produise du contenu.
C'était, enfin, c'est une autre forme d'exagération de la consommation. C'était il y a une vingtaine d'années. McDonald's passait dans les collèges et proposait l'installation gratuite d'un magnétoscope et d'un téléviseur dans chaque classe, à condition que les élèves regardaient la télé pendant 20 minutes par jour.
Oh là là. Ça m'étonne pas, hein.
Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Lorsqu'on utilise Google, bon, on a plein de messages intempestifs qui arrivent. Ma boîte aux lettres est submergée de messages que je n'ai jamais souhaités.
Oui, et c'est intéressant parce qu'en plus maintenant, Google, ça, la boîte mail, donc Gmail, ils eux-mêmes filtrent entre notifications, promotions, donc donnant l'impression qu'ils font un travail qui est plutôt bénéfique, puisque ça nous évite du spam. Maintenant, ces emails, ils restent. C'est de la pollution numérique. Mais heureusement, il y a des alternatives, hein. Moi, je suis en train de tester différentes boîtes mail, différents moteurs de recherche pour voir ce qui me convient le plus. Maintenant, il y a des choses très très bien. Alors, je ne vais pas faire de la pub, enfin, quoi qu'on fait de la pub en mentionnant notre nom, mais des choses comme Ecomail, qui est une initiative française. Mais par contre, on paie très peu, mais on paie en fait pour le fonctionnement du service. Et la différence, c'est qu'on ne paie pas avec nos données.
Moi, j'utilise Ouvaton, qui est une coopérative et qui, à la fois, est un fournisseur d'accès, mais qui permet aussi l'utilisation d'une messagerie qui est absolument remarquable, extrêmement performante. Je l'utilise pour envoyer la lettre d'information de l'Université populaire toutes les semaines. Et je dispose de 6 000 adresses valide et les messages sont distribués dans la minute.
Oui, bah, en fait, il y en a des initiatives, mais il faut leur donner, il faut qu'elles soient visibles. Et ça, c'est le plus dur, parce que
C'est le plus dur
c'est...
parce que enfin, moi quand j'en fais la réclame, la promotion à chaque fois que je peux, parce que vraiment, pareil, j'ai découvert cet outil il y a 4-5 ans et j'en suis tout à fait satisfait. Et en plus, lorsqu'il y a une difficulté, mais il suffit d'envoyer un message à insistance, et il y a une réponse dans la demi-heure ou dans la demi-journée. Lorsqu'on a une difficulté avec Google, ben, on n'a jamais de réponse.
Ouais, ça c'est certain. C'est assez rare. J'en ai jamais eu, mais j'ai eu peu de problèmes. Ouais, le problème, c'est que c'est toutes ces entreprises, Google, enfin ce qu'on appelle les GAFA, les GAFAM, les GAMAM, ça dépend comme certaines changent de nom, certaines se rajoutent, s'en vont. Ce qu'on voit, c'est qu'elles forment ce qu'on appelle Big Tech, et en fait, elles ont un monopole.
Bien sûr.
Et même si le gouvernement américain, hein, donc la Federal Trade Commission, qui est la commission donc, qui se bat contre les pratiques anticoncurrentielles, je sais plus, ils s'en sont à de nombreux procès contre Meta, contre Amazon, parce que ça n'est que ça. Ça n'est que sous prétexte soi-disant de protéger le client en lui offrant de meilleures offres. En réalité, ce n'est pas le cas. Ils rendent le paysage désert, et en fait c'est pas et c'est même pas bon, c'est pas bon pour l'innovation, c'est bon pour rien en fait.
Sinon, pour leur rentabilité.
Voilà, c'est bon pour eux, c'est bon pour leur mais sur le long terme c'est pas excellent non plus, même pour eux. Et on l'a vu avec d'autres monopoles, on l'a vu avec d'autres entreprises, donc dans un système capitaliste, ce qu'ils font en réalité sur le très long terme, mais eux s'en fichent potentiellement de ce très long terme.
Bien sûr.
C'est négatif même pour eux, mais sur le court terme, c'est négatif pour nous.
C'est ça. Alors, nous allons revenir quand même à votre livre. Et à un moment, vous parlez de motrice de recherche. Les femmes sont aux avant-postes.
Ah oui, alors c'est vraiment intéressant. Ça, c'est je ne connaissais pas cette personne qui s'appelle donc Elizabeth Jake Feinler. En fait, quand la première itération d'Internet, hein, qui s'appelle donc ARPANET, a été créée, parce que avant, quand on voulait contacter un ordinateur, enfin un autre ordinateur, ben, on le faisait depuis ordinateur A. Puis si on voulait contacter ordinateur B, on devait avoir un autre ordinateur. Donc c'était impossible. Et donc, il y a eu le ministère de la Défense à l'époque encore, hein, à la fin des années 60, a monté ce projet pour lier, en fait, créer un réseau, donc le net de ARPANET. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était super de créer un réseau, mais qu'en fait, quand il fallait arriver à trouver ce que l'on cherchait. Et c'est là que Elisabeth Jacques-Fenler, qui était donc une scientifique, mais aussi une très grande archiviste, en fait, une documentaliste, hein, qui était à Stanford, elle était à l'étage d'en dessous de là où tout ça se passait. Elle avait rencontré à l'époque, c'était Douglas Engelbart, qui s'occupait donc ce qu'on lui avait donné comme projet qui s'appelait le Network Information Center. Donc, il lui avait dit, il faut créer un manuel de ressources, fais-le. Et donc, elle a commencé, elle a créé notamment, ben, on connaît le WHOIS pour les gens qui connaissent un petit peu l'informatique. Elle a notamment aussi fait tout ce qui était les noms de domaine. .gov, .edu, .mil. Et là, je montre qu'un tout petit bout. Donc, elle, de son côté, a fait ça. Et elle a travaillé pendant 17 ans, de 72 à 89, dans ce centre-là. Donc et elle a vraiment fait un travail monumental, en fait, fastidieux. Elle a créé l'annuaire sur ben, papier au début, c'est ce qu'il faut s'imaginer, puis ensuite numérique, c'est ça, c'est le WHOIS dont je parlais. Et en parallèle, il y avait une autre personnalité, c'est Pamela Hart English, elle un peu plus contre-culture, mais pas très loin, parce qu'elle était à Berkeley, donc on est quand même toujours à San Francisco dans le coin. Qui, elle, avait créé Resource One. Et en fait, elle avait réussi à récupérer un ordinateur, donc un SDS-940, ces énormes ordinateurs qui occupent, donc, on le disait, toute une pièce. Et elle voulait créer, en fait, un réseau local où tout le monde pouvait s'échanger des informations. Tu as besoin de ça, voilà, une sorte de... entre un moteur de recherche et une application comme Le Bon Coin, enfin, un petit peu, mais très local. Elle a commencé, elle a lancé ça, après elle allait faire autre chose. Mais ce qu'on voit, c'est que ça existait avant, en fait. Encore une fois, c'est normal. Parce que Google n'arrive pas de nulle part.
Bien sûr.
Rien n'arrive de nulle part. Et c'est vraiment cette idée-là, quoi. C'est Lavoisier, hein. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc, ces personnalités ont commencé à travailler sur ça. Après, elles allaient faire autre chose. Bon, Elisabeth Jacques-Fenler. Elle s'est beaucoup battue pour l'histoire du net, pour qu'il y ait beaucoup, enfin, qu'on sache ce qui s'était passé, plus. Et donc, oui, donc ces femmes-là, elles ont, c'est Google avant Google. Je dis Google parce que c'est souvent le moteur de recherche par défaut, hein, mais.
C'est dans un ascenseur que vous entendez parler pour la première fois
De
de
Pamela Hart English, oui, tout à fait. Parce qu'en fait, j'entends parler d'une histoire de fabrique de bonbons
Pamela.
et de hippie. Et je me dis de quoi il parle. Enfin, c'est vraiment, sur le moment, j'avais juste entendu son nom. Et en fait, en 2020, j'ai entendu un podcast où elle était interviewée. Et là, je me suis dit, ah oui, d'accord, là, c'est intéressant, parce que je n'en avais jamais entendu parler. Puis c'était quelqu'un de très engagé. C'est-à-dire qu'elle avait cette idée-là. Elle avait réussi à convaincre une entreprise de les fonder pour acheter l'ordinateur. Après ça, en fait, elle voulait acheter un satellite pour permettre aux Vietnamiens, donc on est en pleine guerre du Vietnam, hein, d'avoir accès aux télécommunications, en fait. Parce qu'elle disait, il y a tellement de, notamment, il y a tellement de mines antipersonnelles, de bombes, que mettre des câbles dans la jungle, c'est un, c'est très compliqué, et deux, ça va être très dangereux. Alors, elle n'a pas eu le temps de le faire, mais et c'est quelqu'un d'assez admirable qui, derrière, est allé travailler. En fait, elle a repris ses études pour se consacrer à l'agriculture. Les questions de comment on nourrit les gens dans le monde. Et donc, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de voir ces personnalités qui avaient vraiment. Elles avaient une mission. C'était vraiment quelque chose pour le collectif. L'intérêt économique était très peu présent. Ce qui explique aussi potentiellement pourquoi ça n'a pas marché. Mais malheureusement, mais ça fait la beauté de la chose aussi.
On peut dire que l'ascenseur, c'est aussi un lieu d'intelligence collective de l'entreprise ou
Tout à
comme la
fait.
machine à café, en fait.
Ouais, tout à fait. Comme moi, je ne bois pas de café, je n'ai que l'ascenseur pour avoir l'intelligence collective. Mais oui, tout à fait. Mais, et puis, c'est vraiment. C'est intéressant parce que l'avait mentionné comme ça, en passant, un petit peu en mode c'est quoi cette hurluberlue? Gentiment, hein. Moi, je m'étais dit, usine à bonbons. Et c'est vrai que c'était vraiment la période. Ouais, la fin de la contre-culture, en fait. Après la bataille des droits civiques, après que Martin Luther King soit mort, que Malcolm X ait été tué aussi. Donc, on voit vraiment, il y a encore ce rêve-là, avant que les crises pétrolières, et puis Reagan, etc., mettent tout ça sous. Beaucoup de luttes, hein, ont été écrasées à ce moment-là. Donc, ouais, non, non, c'est vraiment des personnalités, je pense, à pas oublier. Elizabeth Fenla, Pamela Hart English, elles ont vraiment contribué au net que l'on utilise maintenant.
Ça me donne une excellente tradition. Liberté, égalité, internité.
Ah oui, Internet. Internet, la nouvelle frontière. Ça qui est vraiment, c'est assez passionnant parce que les Américains, ils sont passionnés de ça. Hein. Ce sont des. Les Américains, c'est une nation d'immigrés qui sont venus, alors les premiers Américains, les colons, hein, clairement, sont venus d'Angleterre, hein, puis après d'Allemagne, d'Europe de l'Est, ainsi de suite. Voilà. Ensuite, c'est sur la côte Est, ils sont allés jusqu'à la côte Ouest, en génocidant au passage les natifs américains. Voilà, sous prétexte que bon, vous, comme vous ne connaissez pas le sens du terme propriété, bah, on va vous l'apprendre. Et en fait, la course aux étoiles s'est un petit peu essoufflée avec les coups, avec un moment, on allait sur la Lune, super, on allait sur Mars, et puis, ah, on ne peut pas trop créer une colonie là. Donc, c'est vrai que la NASA a perdu un peu de son lustre. Et donc, c'est à ce moment-là, à la fin des années 80, bah, Internet est arrivé, en fait. Vraiment, de manière pour les masses. Enfin, pour nous tous, avec Tim Berners-Lee et Roger Caillot au CERN qui ont créé le World Wide Web. Alors, il y avait d'autres possibilités que que la toile, hein, que le World Wide Web, mais ça n'a pas fonctionné. Mais ça, j'en ne parle pas dans le livre parce qu'il fallait faire des choix. Et c'est vrai que ça a été comparé par notamment des historiens américains à une. Ce qui se passe avec Internet, il disait, c'est ce qui s'est passé en 1492 quand Christophe Colomb est arrivé sur ce qui s'appellera l'Amérique. Mais c'est quand même fou parce que Christophe Colomb, c'est quand même quelqu'un qui a génocidé. Enfin, c'est pas. Mais on voit bien qu'à l'époque où cet historien en parle, c'est encore cette vision très. Il y a toujours Columbus Day aux États-Unis. On célèbre la découverte de l'Amérique et son début de blanchisation, en fait. Mais c'est vraiment une nouvelle terre à conquérir, exploiter et puis rendre rentable surtout. Donc il y avait cette idée d'une nouvelle terre magnifique où tout est gratuit, où tout est accessible, qui est plutôt un beau concept, hein, là, avec aussi la neutralité du net. Tout est neutre sur le net. Mais en fait, non, rien ne l'est. Enfin, c'est une création humaine, donc ça ne peut pas l'être. Donc c'est vrai que de ce point de vue, Elizabeth Jack Fendler qui en fait partie, Pamela Hart English, et puis aussi tout ce travail sur la neutralité du net qui est vraiment intéressant parce que c'est Timou qui en 2003 a utilisé ce terme. Et en fait, c'est parce que ça pose la question du croisement de plusieurs intérêts des opérateurs, grâce à qui vous avez Internet, les fournisseurs de contenu et d'applications. Tout ce que vous pouvez utiliser sur Internet, hein, c'est l'Apple Store aussi, Google Store, ainsi de suite, et puis les intérêts des usagers et des usagères qui veulent avoir accès à tout et avec avec de bonnes qualités.
Bien sûr.
Donc l'idée, c'est que le net est un endroit qui est censé n'être pas contrôlé, où tout est accessible et c'est pas le cas. Parce qu'en fait, il y a des lois aussi. Accéder du contenu pédopornographique, ce n'est pas normal.
Bien sûr.
Parce que, et en fait, c'est la question aussi de l'Internet, ça appartient à qui? Est-ce que c'est un territoire américain? Est-ce que c'est un territoire français? Alors, maintenant, les découpages se sont faits entre guillemets, dans le sens où si vous vous connectez depuis la France, sans VPN, bien sûr, hein, parce que le VPN permet de. Voilà, il y a des contenus auxquels vous n'avez pas accès. Si vous vous connectez aux États-Unis, vous avez accès à des contenus nazis, par exemple. Parce qu'on considère que la liberté d'expression fait qu'on peut avoir accès à des contenus nazis. sans devoir passer par le dark web ou par Tor. C'est beaucoup plus facile d'accès. Donc on voit que c'est aussi l'accessibilité, la neutralité du net, elle est très liée au pays depuis lequel vous vous connectez et aux lois de ce pays. Ce qui ne me semble pas surprenant, mais ce qui va à l'encontre de cette idée d'une terre nouvelle, une terre.
Plus de liberté.
Complètement. Complètement. Après, il y a de la liberté, on peut se poser la question de la liberté de d'avoir des contenus nazis, pédopornographiques, et ainsi de suite. Il y a une forme d'idée. Enfin, c'est pas le Far West, en fait. Pour reprendre cette idée de nouvelles terres et nouvelles frontières, c'est ça la
C'est
question.
à la fois la question d'avoir accès à ces contenus nazis ou pédopornos, mais aussi de ceux qui les créent, de
Bien
ceux qui
sûr.
les publient.
Ah oui, c'est les deux, hein. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas pouvoir les créer,
C'est ça.
les publier. Enfin, les créer, on les crée chez soi, bon. Voilà, mais les publier. Ça pose problème, parce que ça veut dire qu'on les publie en utilisant un fournisseur d'accès, en utilisant une application. Donc, à quel point ceux-ci sont responsables aussi?
Dans tous les cas, ces fournisseurs d'accès ne sont pas, enfin, non, ne mettent pas de filtre à cette publication.
Ben non, alors que pourtant, il y a du filtrage de données, hein. Ils le peuvent, puisqu'ils filtrent bien du spam, ils filtrent l'accès à certains sites, et qui dit filtrage dit analyse. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'analyser les données, de reconnaître. Quel contenu est illégal ou qu'il ne souhaite pas partager. Mais ça pose la question aussi de, enfin, je pense, est-ce que Internet est un droit? Est-ce qu'on a tous, on devrait tous avoir accès à Internet comme on devrait tous avoir accès à de l'eau, à un logement décent? Bon. Et maintenant, Internet est tellement omniprésent qu'on peut se dire qu'un bon accès à Internet devrait être un droit. On ne devrait pas pouvoir limiter la vitesse, par exemple, selon les sites que l'on veut consulter. Et la neutralité du net, alors en France, en Europe, pardon, l'Union européenne travaille beaucoup sur ça. En 2015, il y a un texte qui a été publié qui dit bien que si les opérateurs gèrent le trafic, ça ne veut pas dire qu'ils doivent utiliser ça pour surveiller le contenu spécifique. C'est déjà ça. Aux États-Unis, il n'y a rien. Entre chaque président, ça change. Et bon, Trump n'a pas fait du bien et Biden s'en est pas occupé. Donc le net n'est pas neutre.
Dans votre livre, vous parlez de votre encyclopédie universaliste et aussi Wikipédia, l'enfer encyclopédique pavé de bonnes intentions.
Oui, alors j'ai longtemps beaucoup aimé Wikipédia parce que c'est vraiment c'est magique d'avoir accès à autant de contenu et en plus du contenu participatif. L'idée est très belle de se dire on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Donc d'avoir des centaines, des milliers de personnes qui contribuent à créer une encyclopédie collective dans beaucoup de langues, c'est un très beau projet. Mais on voit bien encore une fois que c'est un projet humain. Donc et en fait, si on n'est pas conscient de ses biais, c'est un projet qui est forcément qui pose des problèmes de plein de manières. Il y a plusieurs. Je mentionne deux enseignantes parce que j'ai trouvé ça très intéressant, Martha Saxton et Amy Hamlin, qui ont fait le test avec leurs étudiants et leurs étudiantes de créer, en fait, de mettre à jour des contenus Wikipédia en rajoutant la part des minorités et de femmes dans ce cas-là principalement, notamment dans l'histoire. Donc, au lieu de créer un article qui, par exemple, qui fait la biographie, imaginons, des femmes qui se sont révoltées pendant le ghetto de Cracovie, parce qu'il y avait des femmes et des hommes, il n'y avait pas que des hommes. Et d'ailleurs, elles ont été déportées ensuite, pour certaines, dans des camps de travail entre Brême et Hambourg. Donc, on pourrait, au lieu de faire un article, les femmes de Cracovie, elles l'intégraient dans la révolte de Cracovie. À la révolte du ghetto. Et en fait, elles se sont rendues compte que la majorité de ces intégrations avaient été annulées, supprimées. C'est-à-dire qu'il y a une histoire des femmes et puis il y a la grande histoire.
C'est ça.
Et ça, c'est. Tant qu'on n'arrivera pas à avoir une histoire qui est qui est multiple, justement, une histoire pas que de chasseurs, mais de tout, ça restera biaisé, ça restera qu'un seul angle, c'est pas intéressant, et puis c'est pas bénéfique, parce que c'est toujours raconter la même histoire, et c'est ce qui nous marque. Donc, et ça tient aussi au fait que Jimmy Wales, donc le fondateur de Wikipédia, lui dit que Wikipédia est principalement mise à jour, créée par une poignée d'éditeurs et d'éditrices. Alors, je dis surtout éditeurs parce que je crois qu'en 2000, il y avait 15% d'éditrices Wikipédia en 2020, 20, enfin, c'est ça, c'est dans ces eaux-là, donc c'est ridicule. Et je parle de femmes qui éditent, hein, enfin, qui se déclarent femmes et qui éditent les contenus. Et donc, lui dit, c'est une poignée d'éditeurs, d'éditrices qui font Wikipédia, donc c'est eux qui ont la mainmise, donc ils ont le droit de rendre ça compliqué, de mettre à jour un article. Or, Aaron Swartz, qui était un petit génie d'Internet et un militant très, très engagé dans l'accès aux ressources, justement, l'accès au savoir, lui a fait une analyse. Avec les chiffres hein, et avec les données, en disant bah non, en fait, c'est pas vrai. Ce qui se passe, c'est que la majorité des mises à jour vont être faites par. Il y a énormément de personnes qui vont peut-être éditer une fois par an. Et si on les empêche de le faire en rendant l'édition de ces articles de plus en plus complexes, avec beaucoup de. Faut passer par beaucoup de. D'état pour pouvoir éditer quelque chose, ben en fait, les articles vont rester tels que une petite poignée d'éditeurs serrés veulent qu'ils restent. Donc en fait, ça ne reflète pas. Ça ne reflète pas la réalité des gens qui contribuent, ça ne reflète pas la réalité des gens qui lisent non plus. Donc c'est assez. C'est pour ça que je dis. Et on a vu qu'il y a des guerres d'édition sur Wikipédia, il y a des contenus très transphobes. Je parle du cas de Jules Marot, qui est donc un dessinateur. Donc qui est un homme transgenre et qui souhaitait que ce qu'on appelle donc son morinon, donc son nom d'avant, ne soit pas mentionné. Il dit, non, mon identité c'est ça, voilà comment. Et en fait, il y avait une bataille d'édition sur sa page de gens qui essayaient de modifier le nom d'éditeurs, mais plus ancrés quoi, qui disaient non, non, c'est ça, et avec des commentaires, parce qu'on peut faire des commentaires en expliquant pourquoi on n'a pas accepté, qui tenait de la transphobie. Totalement avoué, hein. Et ça, c'est choquant. Mais en même temps, Wikipédia reflète le monde dans lequel on est. Et c'est un monde qui est notamment transphobe. Donc, pas tout le monde, mais on voit, en tout cas, avec des voix transphobes encore assez fortes.
Nous arrivons à la fin de votre livre, Les barons de la tech et l'impossible altérité.
C'est vrai que. Alors, pourquoi ça fait ça comme ça, les barons de la tech? Parce qu'en fait, on est dans une période qui ressemble beaucoup à ce qu'on appelle le Gilded Age ou l'âge du toc. C'était une période de forte progression économique à la fin du 19e siècle, après la guerre de sécession, où on a eu des grands industriels qui ont vraiment fait rentrer les États-Unis dans le capitalisme de plein fouet, c'est le cas de le dire. Et ces gens-là, on les appelait enfin, des fermiers du Kansas en 1880. C'est une des sources, les ont appelés les barons voleurs. Ou les robber barons, pourquoi? Parce que voleur, on peut comprendre, pas besoin de l'expliquer, s'approprier un petit peu tout sans faire attention, et puis après, ils généraient des profits qui ne leur retombaient que dans leur poche. Et baron, parce qu'en fait, ils se voulaient cette nouvelle forme d'élite, d'aristocratie, dans un pays, les États-Unis, qui justement est contre normalement l'aristocratie. Ils se sont émancipés de la couronne britannique, c'est pas pour se retrouver. Avec une nouvelle classe dominante. Or, c'est le cas. Et c'est vraiment ce qu'on voit ici, avec ces grands patrons de la tech qui sont célèbres, comme l'étaient les Carnegie, les Rockefeller, les Dupont, les JP Morgan à l'époque. Un Jeff Bezos, c'est une star. Mark Zuckerberg, c'est une star. On en parle beaucoup, on fait des films sur eux. Et ils ont ils représentent vraiment beaucoup, ils ont beaucoup de points communs. Ils sont très riches. Ils ont cette idée de. Enfin, un des mottos de Zuckerberg, c'était quand même Go fast and break things. Enfin, voilà, il faut aller vite casser des choses quand on crée du nouveau. Et à côté de ça, ils se présentent aussi comme de grands philanthropes. Sauf qu'en réalité, c'est de la philanthropie qui leur bénéficie, parce que ça permet de réduire les impôts, de faire du lobby auprès du Congrès. Mais ça fait bien dans les médias et c'est bon pour l'action. C'est bon pour le cours de l'action de dire qu'on donne de l'argent pour sauver des vies, comme c'est le cas de Zuckerberg, qui a dit qu'il donnerait 45 milliards, je crois, à l'époque, en 2015, quand son premier enfant est né. Et il dit ça parce qu'il dit que c'est pour pouvoir développer le potentiel de toutes les personnes qui n'ont pas accès aux mêmes moyens qu'il a. C'est très bien dans les faits. Et à côté de ça, il se construit un bunker à Hawaï pour la fin des temps. C'est contradictoire.
Bien sûr.
Ça dit bien ce que ça veut dire. Quand ça n'ira pas, ben, il ira dans son bunker et puis les autres à qui il a donné les 45 milliards pour apprendre à écrire et à lire, ils mourront. Ou pas. Oui, créeront une autre société. Imaginons les choses plus positivement.
Marion, je rappelle le titre de votre livre Patriartech, qui a été publié par les éditions Hors d'Atteinte. Nous arrivons au terme de notre entretien. Vous avez les mots de la fin.
Les mots de la fin, c'est que il ne tient qu'à nous de modifier les choses en nous organisant, en nous mobilisant, en allant dire à nos gouvernements et les instances gouvernementales qu'on n'est pas d'accord avec la manière dont les choses se passent, et en utilisant aussi la tech différemment. On a parlé de quelques. On a mentionné WhoBaton, Ecomail. Il y a plein de manières différentes, en fait, d'être un acteur ou actrice de la tech et pas seulement d'être utilisé par ces grandes entreprises.
C'est aussi acteur de sa vie.
Complètement, voilà.
Merci beaucoup Marion pour cet échange, cet entretien.
Merci beaucoup.